appel de l'Association des propriétaires de Sérieux-sur-le-Lac, Inc. contre Michel Grandmaison et al., Maître Gravel pour l'appelant et Maître Richer pour l'intimé. Alors, nous allons vous écouter. Je pense que vous avez 45 minutes.
Oui. Merci. Merci. Alors, écoutez, j'ai tenté du mieux possible dans le cadre du mémoire de présenter de façon détaillée l'historique factuel du dossier pour vous permettre d'avoir une vision précise des éléments qui m'apparaissent pertinents. Alors, à moins que vous ayez des questions préliminaires au niveau factuel, je vais m'en tenir à ce qui est au mémoire, puis j'aborderai donc immédiatement la question des
arguments. Vous pouvez aller directement aux questions de droit et vos moyens d'appel.
Alors, dans un premier temps, j'aborderai la question traitant de la configuration des lieux. Et plus précisément, de savoir si à toute fin pratique, la preuve permettait raisonnablement au juge de première instance de conclure à la présence d'une plage sur le lot en litige, donc le lot 7D-40. C'est un argument, évidemment, qui, à mon avis, a un impact tant sur la servitude par destination que la servitude contractuelle, parce qu'évidemment, au niveau de la servitude par destination, la preuve de l'existence d'un arrangement matériel préalable au morcellement des lots ou à la vente des lots est nécessaire, alors que du côté de la servitude contractuelle, si on veut étendre la portée d'une servitude de passage à un droit de plage, évidemment, il faudra qu'on puisse conclure qu'effectivement, il y a une plage sur le lot qui est visé. Je précise d'entrée de jeu, puis ça manquait peut-être de clarté dans mon mémoire, mais on ne remet pas en question le fait qu'il puisse y avoir aux abords de la bande riveraine une grève ou un rivage. La question fondamentale, c'est est-ce que appelons-la la plage, est-ce que cette plage-là se situe sur le lot en litige? Et donc, est-ce que la preuve permettait de conclure qu'elle était située sur le lot en litige? Mon argument, c'est que d'une part, pour toute la période qui est préalable à l'acquisition par la plante du lot, donc avant le 31 janvier 1976, il n'y a aucune preuve qui a été administrée qui permettait de saisir la configuration des lieux. On n'a pas de plan d'arpenteur, on n'a pas de photographie de l'époque qui nous permettrait de déterminer si oui ou non cette portion sablonneuse se retrouve sur le lot ou fait partie du domaine public. On n'a rien à cet effet-là. Ce que nous avons néanmoins, c'est une preuve plus contemporaine. En fait, essentiellement, vous avez noté qu'on retrouve des photographies sous la pièce R10 au dossier. Où on est en mesure de comprendre ce que les parties appellent la plage. Maintenant, le témoignage qui peut être livré en corrélation avec ces photographies-là, c'est celui de M. Lamontagne. Et M. Lamontagne, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu dire que de façon générale, l'eau du lac est beaucoup plus haute que ce qu'on peut voir sur les fameuses photos R10. Vous retrouvez ça là, plus précisément dans le volume 2, aux pages 713 et 714, où essentiellement il explique que lui n'a jamais vu sur les lieux une eau aussi basse et que, de façon générale, l'eau monte jusqu'à la bande riveraine, donc vient lécher, je reprends son expression, vient lécher les roches qu'on retrouve aux abords de la portion végétale. Et en fait, je vais même un petit peu plus loin, questionné par le juge de première instance, M. Lamontagne est venu dire qu'à toute fin pratique, dans une situation normale, où l'eau donc est à une hauteur usuelle, il n'y en a pas de plage. C'est ça le témoignage qui est venu. Alors, on peut bien évidemment peut-être envisager qu'il y a peut-être un ou deux pieds là, de portions sablonneuses, mais essentiellement, on comprend que dans la réalité, il n'y a pas de plage à cet endroit-là. Bon. Et ce que la loi prévoit, l'article 919 du Code civil, c'est que les cours d'eau vont appartenir à l'État, au domaine public, jusqu'à ce qu'on appelle la ligne des hautes eaux, qui, dans le cadre de la délimitation foncière, va se déterminer en fonction de l'état normal du lac. Donc, de façon usuelle, jusqu'où l'eau de ce lac-là se rend-elle. Et si on se réfère à la preuve qui est livrée pour le volet contemporain, on comprend à fin pratique que la ligne des hautes eaux va se rendre à la limite du lot. Donc, la plage, si plage il y a, fait partie à ce moment-là du domaine public et appartient à l'État. Ce qui, à mon sens, ne pouvait pas amener le juge de première instance à conclure à la présence d'une plage et par l'effet même, ne pouvait pas conclure à la présence d'un arrangement et donc d'une certitude par destination. Et le même principe s'applique à la question de la certitude contractuelle.
Est-ce que la ligne des hautes eaux, au fin de la délimitation foncière, c'est pas justement l'endroit où l'eau touche la grève?
Oui, en fait, vous avez raison.
Ce qui est contesté, je ne pense pas que les intimés recherchent à avoir accès. C'est pas l'accès à. C'est pas l'eau qui pose problème, c'est l'endroit où ils peuvent poser.
Oui, vous avez raison,
pour avoir accès au lac.
J'ai
beaucoup de mal à vous suivre sur votre argument de.
Oui, écoutez, je vais préciser ma pensée, si vous me permettez, à ce moment-là.
Parce que, est-ce qu'il est contesté? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de plage ici? Et donc, les installations de votre cliente, c'est quoi, finalement?
Les installations de ma cliente sur le lot 7D40?
C'est un parc?
Oui, principalement. Vous avez
principalement, mais il n'y a aucune plage.
Il n'y a aucune plage sur le lot. Ce que je vous dis, c'est que ce qu'on peut voir sur les photos R10, donc cette portion de sable, de gravats. Mm-hmm.
Surtout à la plage 3-5.
Exact.
3 et 4.
C'est que ça n'appartient pas, ça ne fait pas partie du lot de cette D40. C'est ça mon argument. Pour ça que je vous disais, je vous précise d'entrée de jeu, je nie pas qu'on puisse retrouver une portion, qu'on puisse assimiler à une plage. Ce que je dis, c'est que ça, ce n'est pas situé sur le lot en question. Parce que si on se réfère à la preuve qui est administrée, on comprend que dans le cours normal des choses, l'eau, à toute fin pratique, va venir couvrir en quasi-totalité cette portion-là.
Mais pas si on regarde la photo de.
Oui, vous avez raison. Ça, vous avez raison.
On voit qu'il y a une plage, on voit qu'il y a du sable.
Vous pouvez voir également sur les photos qu'on peut voir la portion humide là, qui se situe un petit peu après l'eau. Et donc, on comprend que l'eau, de façon générale, va venir beaucoup plus haut que là où elle s'arrête précisément.
Sauf qu'il reste une plage. Il reste une portion sablonneuse.
Il reste une portion sablonneuse, vous avez raison. Maintenant, c'est pour ça que je vous soumettais le témoignage de M. Lamontagne, qui n'a pas été contredit à l'effet que lui n'a jamais vu ça. Alors, on était à
lui,
ce moment-là.
Lui
n'a jamais vu l'eau aussi basse. Okay. Alors, ce qu'il disait, c'est de façon usuelle, l'eau monte beaucoup plus que ce qu'on peut voir sur cette photo-là. D'où mon argument qui est de vous dire. Cette portion-là fait partie du domaine public. Et quelle est la conséquence? Si on en vient à la conclusion que je vous soumets, quelle est la conséquence? C'est qu'il n'y a pas de plage sur le lot 7D40. Et s'il n'y a pas de plage sur le lot 7D40, il ne peut pas avoir de servitude de plage, qu'elle soit par destination ou contractuelle. Bon. Et prenant sur appui sur l'arrêt qui a été rendu par cette cour dans Mont-Tremblant Residence Trust contre Chartier, que vous aviez à l'onglet 3 du cahier des sources. La cour concluait que la servitude de plage ne pouvait être exercée évidemment que sur une plage et que dans ce dossier-là, on se retrouvait avec une portion infime qui se retrouvait sur le lot du fonds servant. Et le tribunal venait à la conclusion que la servitude ne pouvait être exercée que sur ces portions-là et que pour ce qui touche du domaine public, la Cour, évidemment, n'avait pas intervenu. Donc, pour conclure sur ce point-là, ce que je vous soumets, c'est que la preuve pour tout ce qui est préalable à la vente à la plante du lot est muette sur quelle était la configuration des lieux. Et pour la période contemporaine, si on veut en tirer une inférence, bien, je pense que la preuve révélait que la plage en question ne se situe pas sur le lot.
Maintenant, la preuve de la délimitation foncière, là, ça se fait normalement par appointage.
Vous avez raison.
Alors, où est la preuve à cet égard-là dans le dossier pour vous permettre de prétendre que la plage, n'existe pas ou qu'elle fait partie du domaine public?
Mais en fait, vous avez raison, mais ma réponse, c'est le fardeau de déterminer quelle était la configuration des lieux revenait aux intimés. C'est à eux de faire la preuve, s'ils prétendent à l'existence d'un droit de plage, c'est à eux de faire la preuve que cette plage-là se trouve sur le lot en question. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune preuve qui a été faite à cet effet.
Et pour vous, l'ensemble des documents qui sont déposés ne font pas état d'une plage?
Non, encore une fois,
Et de l'intention d'exploiter ou de développer un projet immobilier qui permette éventuellement aux résidents de pouvoir accéder à la plage. Parce que c'est ça le sens du jugement.
Vous avez raison, mais c'est pour ça que je vous réitère, je nie pas qu'une plage puisse être présente sur les lieux. Ce que je dis, c'est la preuve ne permet pas de conclure qu'elle est sur le lot. Vous avez raison.
Vous apportez un élément de domaine public qui n'a pas fait l'objet d'une preuve. Avec respect,
mais,
sans avantage géomètre. Alors, vous apportez cet argument-là. Je n'ai pas de preuve de délimitation foncière par un arpenteur. Alors, tout cet aspect de... Tu sais, que M. Lamontagne, qui est administrateur, vient de dire que, selon lui, l'eau a varié. Ça ne veut pas dire que la ligne des hautes eaux varie. La ligne des hautes eaux ne varie pas dans le temps. La ligne des hautes eaux est établie à un certain niveau.
Je n'ai pas
la preuve par témoin factuel qui établit ça. Là, certainement pas parce que M. Lamontagne dit que l'eau était plus basse, qu'on va accepter ça comme étant la ligne des hautes eaux. Comprenez-vous?
Tout à fait. Je comprends tout à fait. Ce que je vous dis, c'est la preuve, elle aurait dû être faite par les intimés. Devant la situation qui, manifestement, est loin d'être limpide, il fallait qu'ils apportent une preuve de cet élément-là. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, si vous me permettez... Si vous êtes d'avis que le juge, en fonction de la documentation, des photographies, des témoignages, pouvait raisonnablement conclure à l'existence d'une plage sur le lot 7D40, il y a une chose qui demeure, c'est que la portion qui ne ferait pas partie du domaine public, elle est très minime. Si on regarde les photos R10, on peut évidemment conclure que ça va être quelque chose de quelques pieds tout au plus. Alors, si c'est ça la conclusion de la Cour, moi, je vous demanderais à ce moment-là, pour éviter toute ambiguïté dans la portée du jugement, et parce que effectivement, comme le juge le dit, ça risque de toucher beaucoup plus de gens que ceux qui étaient impliqués dans le litige, je vous demanderais que la conclusion, en fait, le paragraphe 165 du jugement, où le juge conclut à l'existence d'un droit de plage, qu'une précision soit apportée pour indiquer que ce droit-là ne peut être exercé que sur la portion, on peut utiliser les termes qu'on veut, là, sablonneuse, la grève du lac, ou la portion qui se situe entre la bande riveraine végétale et l'eau. Mais je vous demanderais à tout le moins qu'une précision puisse être apportée, parce que il est clair qu'à défaut, on va se retrouver devant une situation problématique où les parties et même des tiers vont devoir interpréter où peut être exercé le droit de plage parce que ce n'est pas indiqué dans le cadre du jugement.
Alors, ce que vous voulez, évidemment, c'est que la Cour vous donne raison quant à la conclusion des conclusions de votre mémoire. À la page 30.
Oui, bien ça, en fait, ça c'est un autre élément, mais ce que je vous disais, c'est que pour la question de l'argument que je faisais à l'effet qu'il n'y a pas de plage, mm-hmm. si votre conclusion est contraire à la
Non, je sais, c'était conditionnel.
Évidemment, moi, la seule chose que je demande, c'est qu'on précise ouais. dans le paragraphe 165 du jugement de première instance que le droit de plage ne peut être exercé que sur la plage.
Il me semble que...
Vous allez me dire, ça tombe
sur ça. Que ce soit un droit de plage, ça implique que c'est la plage, et non pas le reste du lot. Il me semble que ça coule de source, et c'est un petit peu ça que je veux dicter. Est-ce que j'ai besoin de définir davantage qu'une plage? Qu'est-ce qu'une plage?
Bien, ça coule de source, je vous dirais oui et non, parce que il est arrivé dans certains jugements que je n'ai pas nécessairement remis dans mon cahier de source, mais que des terrains qui n'avaient pas nécessairement le qualificatif de plage au sens premier se sont vus attribuer un droit de plage. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il serait, dans le cas de ce dossier précis-là, il serait utile que cette remarque soit faite, d'autant plus que dans les motifs du jugement, sauf erreur au paragraphe 135, le juge vient indiquer que les intimés ne peuvent utiliser le lot que pour se rendre à la plage.
Ouais. Alors, comme il le veut.
C'est ça. Alors, non. Mais c'est dans ses motifs et non pas dans ses conclusions. Je pense que ça serait utile et ça éviterait probablement des difficultés ultérieures que ça soit précisé dans le cadre du jugement.
Mais les installations dont vous parlez
oui.
ne sont pas sur la plage.
Non, vous avez raison.
Alors, ce qu'il vous dit, là... Par exemple, c'est attendu qu'en principe, le tribunal n'a pas explicité ce qui appartient au sens commun. C'est que le droit de plage, c'est pas un droit de pouvoir utiliser les installations dans le parc qui est installé par votre client. Comprenez-vous?
Oui, tout à fait, je comprends. Mais je comprends
parce
également.
Que c'est un petit peu contradictoire. Si c'est un droit de plage, pourquoi est-ce qu'on discute des installations qui, lorsqu'on on regarde vos photographies, n'ont rien à voir avec le bord du lac?
Bien, cette demande-là était faite au juge. Je comprends que pour vous, ça peut couler de source, et pour un juriste, ça peut couler de source. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est peut-être pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un droit de plage? D'une part, c'est pas défini dans la loi. Ça n'a pas été clairement défini dans la jurisprudence. Alors, cette demande-là, elle était faite à ce moment-là pour ces raisons-là. Mais ce que je vous soumets...
Quelle était la position de votre confrère en première instance à ce sujet?
En fait, honnêtement, nous n'en avons pas vraiment traité. Je ne me souviens pas que mon confrère ait argumenté sur cet élément-là.
Parce que le juge indique que ça n'a jamais été en litige. Ils n'ont jamais demandé à pouvoir utiliser... Ils ont fait une requête. Mais jamais il n'y a été question des installations, parce que ce qu'ils réclamaient, c'était... C'était accès au lac par la plage, pouvoir bénéficier de la plage. Puis d'un droit de plage, ça inclut pas... Puis il me semble que quand on regarde vos photographies, c'est...
Il n'y a rien là.
C'est une petite plage étroite.
Mais d'où mon...
Droit de passage à pied pour s'y rendre, par contre.
Oui, oui, tout à fait.
Mais ce n'est pas des installations. Puis d'ailleurs, on voit que c'est autre chose qui est derrière.
Mais je ne vous demande pas de... Dans mon argument subsidiaire, je demande pas à la Cour de venir reproduire les conclusions qu'on recherchait quant aux installations. Tout ce que je demande, c'est qu'on puisse préciser dans le cadre du jugement que le droit de plage s'exerce sur la plage. Je comprends que ça fait
mais
beaucoup de sens.
Ça,
j'en conviens. Mais dans la vraie vie, ça va causer des difficultés. C'est tout ce que je veux éviter.
Mme Carabelle?
Oui.
Peut-être juste pour me préciser une chose. Lorsqu'on regarde les photos à la page 303, ou page 303 et 304 de votre mémoire, de toute évidence, là, il y a une plage.
Oui.
Ça, c'est bien le secteur qui est en litige.
Tout à fait.
Alors, c'est ce que vos clients, à un moment donné, ils ont mis de la sécurité et puis ils ont limité l'accès à cette plage-là. C'est ça que je comprends? C'est ce qui a été mis en preuve.
C'est-à-dire que j'ajouterais une petite précision, là, c'est-à-dire que ce que la plante a fait, c'est empêcher le séjour et l'utilisation de la portion, alors, pas celle qu'on voit ici, là, le reste du terrain. C'est ça la prétention.
Mais cette plage-là, est vous en train de nous dire là, que ça a toujours, vous avez toujours permis que les intimés puissent accéder à cette plage-là là, et puis y séjourner et puis l'utiliser.
Bien, en fait, je vous ramène au témoignage de M. Lamontagne à l'effet que, de façon générale, cette portion qu'on voit là, elle n'existe pas. Parce que l'eau est beaucoup plus haute que ce qu'on peut voir sur ces photos-là.
Mais c'est un lac.
C'est un lac, oui.
Comment vous expliquez qu'on appelle ça la plage soutien?
Quand ce n'est pas une plage.
Pardon?
Quand ce n'est pas une plage.
Mais je vous dis pas qu'il n'y a jamais eu une portion. Ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est qu'elle est minime et qu'elle appartient, à mon avis, à l'État. Mais je comprends votre position. Je vais passer à un argument subséquent, si vous me permettez. Bon, sur la question de l'écrit nécessaire à constater l'existence de la servitude par destination du propriétaire. Évidemment, là, que l'on tienne compte des dispositions applicables au Code civil du Bas-Canada ou du Code civil du Québec, la règle n'a pas changé. Cette servitude-là doit être constatée, non pas créée, mais constatée par un écrit qui va permettre de déterminer quels sont les fonds dominants, quels sont les fonds servants, quelle est la disposition des lieux, quelle est la nature, l'étendue et la situation de la servitude. Maintenant, dans le jugement de première instance, on ne retrouve pas de référence précise où le juge identifie un document en particulier en disant « il s'agit de l'écrit nécessaire ». Sa conclusion est plutôt à l'effet, au paragraphe 131, que, à la suite de son analyse de, je reprends les termes qu'il utilise, là, d'innombrables documents, il lui semble qu'il fait face à cet écrit nécessaire à constater la servitude par destination. Maintenant, si on réfère justement aux documents qu'il a analysés, si je fais abstraction des contrats pour l'instant et je regarde les autres documents, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le règlement R5 que vous retrouvez dans le volume 1 à la page 292, qui est un règlement de construction qui est accessoire ou qui est joint à certains actes de vente du dossier. Là. Principalement, ce que ce document-là prévoit et qui a une pertinence dans le cadre du dossier, c'est le fait que l'acheteur ne doit rien faire qui est susceptible de nuire à la plage publique. Maintenant, ce document-là ne permet pas de déterminer le fonds dominant, ni par ailleurs le fonds servant. Il n'offre aucune indication quant à la disposition des lieux. Et surtout, il ne définit pas la nature de la servitude, son assiette et sa situation. Alors, respectueusement, je pense qu'il n'y a rien dans ce document-là qui était susceptible de constater une servitude par destination du propriétaire. L'autre document, encore une fois, abstraction faite des contrats, ce sont les plans R4 qui avaient été également cotés, le R6B, qu'on retrouve aux pages 285 à 289 du volume 1. Sont essentiellement des plans de subdivision cadastrale. En fait, c'est les plans qui amènent la subdivision du lot 7D original, incluant le lot 7D40 qui fait l'objet du titre. Alors, on pourra peut-être prétendre que dans ces plans-là, on peut déterminer la disposition des lieux et le fond servant, parce qu'effectivement, le lot 7D40 s'y retrouve. Maintenant, les fonds dominants seraient lesquels? Parce qu'il faut savoir que dans ces plans-là, les lots des intimés ne s'y retrouvent pas. Donc, les lots dont ils sont propriétaires ne se retrouvent pas dans ces plans-là. Donc, on ne peut pas, avec ce plan-là, déterminer des fonds servants et un fonds dominant. Mais surtout, puis c'est ce qui m'apparaît plus important, ce plan-là ne permet pas d'inférer de quelconque façon la nature, l'étendue et la situation de la servitude. Alors, ce sont les deux seuls documents émanant du propriétaire là, de l'époque, M. Soutière, qui ont été analysés par le juge. Je comprends qu'il ne pointe pas le doigt sur l'un d'entre eux en disant « ben, c'est cet écrit-là », mais c'est ceux qui sont analysés. Maintenant, si on les prend et on les regarde, avec respect, je ne pense pas qu'on puisse conclure que c'est suffisant pour constater une servitude par destination du propriétaire de droit de plage. Bon, quant au reste, ce sont des contrats. Des contrats qui prévoient quoi? Ce sont des contrats qui créent ou qui constatent des servitudes contractuelles de passage. Étant dans un premier temps, je ne pense pas que si un contrat crée une servitude, on puisse alors qualifier la servitude de servitude par destination. Si c'est un contrat qui la crée, c'est une servitude contractuelle, et à ce moment-là, on va se conformer au contrat point. Et plus encore, si effectivement on conclut qu'il y a eu création d'une servitude par destination, mais qu'au moment où l'auteur commun morcelle ou vend les lots, il établit une servitude contractuelle différente, à ce moment-là, on doit se conformer à la servitude contractuelle parce qu'il y a une volonté de la part de l'auteur de venir ou l'étendre ou la restreindre. Dans notre cas, ça serait la restreindre. Ça, c'est un principe que vous retrouvez dans l'arrêt Plourde contre Plante, qui est à l'onglet 4 du cahier des sources, où la Cour indique, au paragraphe 44, que même si un arrangement, donc l'arrangement nécessaire à la servitude par destination, pouvait être identifié, le contrat subséquent est venu clore le débat et restreindre la portée de la servitude. On parle par ailleurs dans cet arrêt-là d'une situation similaire. Une servitude de passage inclut-elle à toute fin pratique un droit de plage? Évidemment, toujours en prenant la position que le contrat peut être l'écrit nécessaire à constater la servitude par destination, j'admets nécessairement que ces contrats-là permettent d'identifier un fonds dominant, un fonds servant, ça c'est évident. Par contre, ces contrats-là, ils définissent la nature, l'assiette et la situation de la servitude et ils indiquent que c'est une servitude de passage. Donc, si on veut les retenir comme étant les documents nécessaires à constater la servitude par destination, mais encore faut-il s'en tenir à ce qui est indiqué dans ces contrats-là, qui est « il s'agit d'une servitude de passage à pied pour vous rendre au lac, rien de plus ».
Bien, écoutez, en 1947, le contrat qui intervient prévoit un droit de passage à pied pour atteindre la plage.
Là, vous parlez, je pense, du contrat à M. Gaudreau.
Notaire Soutière et Luigi Gaudreau. Ensuite, en 1949, il y a un tiers indivis qui est vendu, qui va lui revenir par la suite, mais l'acte prévoit un droit de passage à pied pour atteindre la plage pour les parties intéressées, donc. Par la suite, Lorsque le notaire vend à la compagnie dont il est président, les plages modernes, il prévoit un droit de passage à pied à travers les terrains de la dite plage publique Wright pour se rendre de l'avenue principale au lac. Mm-hmm. Et vous vous dites qu'à cause de ça, ça a modifié la... C'est ce que vous dites? Ce contrat-là, il vous modifie.
Si on en vient à la conclusion que cet arrangement-là, donc que cette plage-là, était présente avant le morcellement des lots, bien, à partir du moment où il y a un contrat qui vient restreindre la portée et qui parle d'une servitude de passage, on ne devrait pas en arriver à la conclusion qu'il s'agit d'une servitude de plage. Dans le cas, de l'acte de vente de M. Godreau, c'est une servitude qui est donnée à M. Godreau, qui, par ailleurs, n'est même pas un des lots qui est visé par le litige. Ben, je vous souligne, par ailleurs, que vous avez, j'imagine, constaté qu'il y a eu une réouverture d'enquête dans ce dossier-là, après que le juge ait souligné aux intimés une lacune dans leur preuve. Et cette lacune-là, c'est précisément cet aspect-là qu'elle visait. Le juge est venu dire, à toute fin pratique, si vous n'êtes pas capable de me produire le fameux plan R6, là, tout ce qu'il me semble y avoir au dossier, c'est le règlement de construction R5. Alors, je vous souligne une lacune dans la preuve pour que vous puissiez la combler. C'était ça l'objet de sa lettre du 2 octobre 2012, qu'on retrouve en page 123. Et c'est lors de la réouverture en question qu'il a véhiculé ses propos. Vous retrouvez le passage là, dans le volume 3, page 1040, lignes 14 à 23. Vous allez voir que...
Vous référez à un pan de preuve, mais à quoi particulièrement? Quel passage?
La page 1040.
1040?
Oui, ligne 14 à 23.
OK.
Et c'est durant la réouverture.
Oui, effectivement. Okay. Alors, évidemment, je suis tout à fait conscient que le juge, à ce moment-là, n'est pas lié par les conclusions qu'il peut faire, mais je le souligne parce que tout ça découle du fait qu'il souligne une lacune dans la preuve à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, dans le cadre de sa réflexion. Pour lui, il n'y a pas l'écrit nécessaire à la reconnaissance de la servitude par destination, sauf les règlements R5, lui semble absent du dossier. Alors, il n'est pas lié par ça, mais ça m'apparaît tout de même révélateur. Là. Ce qui
donc,
m'amènerait...
Il conclut que l'ensemble des documents qu'il a consultés, je pense qu'il qualifie d'innombrables.
D'innombrables, effectivement, oui.
L'amène à conclure de l'intention de...
Oui, c'est pour ça que je les reprenais. Et ce que je vous disais, c'est que R5, les règlements et les plans de subdivision R4, pour ma part, je...
Et c'est suite à cette... C'est dans ce contexte-là que je crois que ça a été plaidé, justement, toute la question des... qu'est-ce que disent les différents écrits dans le dossier. N'est-ce pas? Ce que là, on est revenu sur... C'est des plaidoiries, là, c'est des représentations qui ont été faites sur la portée des documents.
Bien, c'est-à-dire, cette audition-là portait plus précisément sur la possibilité pour les intimés de produire en preuve le plan R6, qui n'avait été remis au juge qu'à titre de document de travail, avec une entente entre les procureurs à l'effet que les mentions qu'on y retrouvait ne devaient pas être utilisées. Alors, c'est principalement là-dessus que la réouverture d'enquête portait. Et la conclusion du juge, c'est que non, il ne pouvait pas recevoir le plein accès sans preuve. C'était ça sa conclusion.
Puis par la suite, les parties ont plaidé.
Bien, en fait, on avait déjà plaidé à cette époque-là.
Il y a eu des représentations par la suite.
Oui, 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 effectivement, sur cet élément-là.
Là, ça a été plaidé sur la portée des documents, puis ça a mené au jugement qu'on connaît. Bien. Parce que vous nous dites de nous guider sur ce qui a pu soulever en cours de route pour soulever la lacune, mais en bout de ligne, il s'est estimé convaincu par la présentation de votre collègue qui avait assez de documentation pour permettre d'asseoir l'existence d'un écrit qui soutienne une servitude par destination du père de famille.
Mais toute la question d'analyser notamment les règlements R5, les plans R4 et l'ensemble des contrats s'est fait préalablement à ça. Cette audition-là, elle a porté sur R6 et sur des documents additionnels qui ont voulu être produits par les intimés. J'en viendrai, si vous me permettez, à la question de la servitude purement contractuelle. Où essentiellement, la question principale, c'est est-ce que la preuve permettait de conclure que la servitude identifiée comme étant une servitude de passage dans les contrats inclut ou non un droit de plage. Maintenant, la base de mon raisonnement découle du principe qu'on retrouve, entre autres, là, dans la décision Mont-Tremblant Residence Trust à l'onglet 3, au paragraphe 26, où le tribunal indique que si le texte créateur de la servitude n'est pas vague, ambigu ou imprécis, on ne se lancera pas dans une interprétation, mais on va donner la portée au texte qui paraît avoir. Bon, c'est un principe, je fais juste vous citer les onglets sans en traiter, mais qui est repris aux décisions qu'on trouve aux onglets 6, 7, 8, 9 et 19. Principe qui m'apparaît très important dans ce dossier-là parce que au paragraphe 139 du jugement, le juge, d'entrée de jeu, indique que la question de déterminer si cette servitude de passage inclut ou non un droit de plage va découler de l'interprétation qu'il va faire des contrats. Sans préalablement y avoir noté un aspect vague, une ambiguïté ou une imprécision. Alors que c'est ce que l'état du droit dit. Si le texte est clair, donnez-lui la portée qu'il paraît avoir. Ça, à mon sens, c'est une erreur de droit que d'avoir interprété les contrats sans identifier préalablement si effectivement il y avait place à une clause vague, ambiguë ou imprécise. Maintenant, on peut se poser la question en regardant le texte des servitudes de passage, si effectivement il y a une ambiguïté.
Mais si je comprends bien là, votre position, c'est que vous vous arrêtez à la servitude conventionnelle du titre du 22 janvier 54.
Oui.
C'est ça? Est-ce qu'on pourrait pas également comprendre cette servitude-là vient se superposer à l'autre servitude qui avait déjà été consentie à la démarche soutien. Où là, on lui donne un accès, parce que la finalité n'est pas la même. La première servitude, on vient dire qu'on donne accès à la plage.
Là, vous me référez à un...
À celle du 7 septembre 49, qui vise un peu, de, c'est là où on dit que le lot 7D40 était sujetti à un droit de passage à pied pour atteindre la plage. Ça, c'est une première étape.
Je vais juste me rendre au document.
R11.
Oui, oui.
on sait que par la suite, lorsque Soutière vend à les plages modernes, là, il vient nous parler ici d'une servitude. Mais cette servitude-là, c'est pas pour atteindre la plage. C'est pour se rendre de la rue principale au lac. Oui. C'est comme si, c'est comme deux objectifs différents. C'est comme si deux objectifs différents étaient ici poursuivis. Une première servitude pour atteindre la plage. Peut-être l'utiliser. Mm-hmm. Et l'autre servitude à une autre fin. Est-ce que ça pourrait pas être une interprétation possible, ça?
Je pense pas, parce que la pièce Saint-Ronge à laquelle vous référez, donc celle du 7 septembre 1949, ce qu'elle prévoit, c'est un droit qui est, à mon avis, purement personnel ou à tout le moins une servitude personnelle. Parce que ce qu'on dit, c'est un droit de passage à pied par les parties intéressées. Alors, j'ai pas les décisions en tête, mais lorsque on constate à la lecture de l'acte que le bénéfice est attribué à un individu et non pas à un fonds, la conclusion, c'est que c'est cet individu-là qui en bénéficie. Et ça s'arrête là. Donc, ce n'est pas un droit réel qui va passer de main en main à la suite de la vente successive des lots. Là.
Il est à quelle page déjà dans le mémoire?
308. Et vous référiez, je pense, au paragraphe C.
Alors, moi, ça serait celui qui est à la page, le sous-paragraphe est à la page 309. Un tiers individu, lot.
Ça, M. le juge, c'est pas le lot en question.
Non, c'est pas le lot en question.
C'est le paragraphe C à la page 309.
C'est 7D.
Oui.
40.
Alors, un tiers individu.
Sujet au droit de passage à pied. À 30 plages pour les parties intéressées.
Mais ici, les parties intéressées, c'est les propriétaires du lot.
Oui, vous avez raison, mais face à ce type de clause-là, puis encore, je m'en excuse, je n'ai pas d'autorité dans mon cahier de
source. Peut-être que vous dites, c'est que si ça serait une servitude personnelle qui ne serait accordée qu'au propriétaire à cette époque.
Exactement.
Ce n'est pas une servitude qui est rattachée
à
la propriété
fond.
En tant que telle, au fond en tant que telle.
Non, mais ça, c'est l'acte de vente qui vend le lot, le tiers individu du lot 7D, sujet à un droit de passage.
Oui.
En faveur des parties, pour atteindre la plage par les parties intéressées. Donc, il dénonce l'existence d'une servitude au bénéfice des parties intéressées, qui sont les lots là, qui sont autour de...
Sans avoir mentionné les lots.
Sans avoir mentionné.
Oui, exact, mais c'est pour ça que je... Alors, à la limite, ce qu'on peut y percevoir, ça serait une servitude personnelle qui a été attribuée à...
C'est une autre façon de l'interpréter.
À ces gens-là, mais encore une fois, ils ne sont pas identifiés. Là. C'est difficile d'en venir à la conclusion que ça vise... Je vois que l'heure tourne.
L'acte de 40... J'essaie de retrouver.
C'est 49. Septembre 49.
Oui, mais le 47, on le retrouve pas. Je vois l'inscription au registre foncier, là, mais l'acte précédent.
Oui. Vous parliez de celui de monsieur, à monsieur
Godreau. Il n'y a pas qu'un seul document qui regarde le juge. Il regarde l'ensemble, puis ça lui permet de conclure qu'il y a une intention de prendre en...
L'acte de, je ne sais pas si c'est celui-là que vous cherchez, mais l'acte de août 1947,
oui.
Vous le retrouvez à la page 236. 336, pardon, excusez-moi. Il s'agit en fait du dernier extrait d'acte de vente, donc si on veut le paragraphe 3 du document. Et en fait, sauf erreur de ma part, cet extrait d'acte de vente-là ne réfère pas à une servitude. Quelque nature que ce soit.
Il réfère au règlement de construction.
Oui, effectivement.
Qui prévoit qu'on doit permettre de faire quoi que ce soit qui nous mise à la plage publique.
Oui.
Et c'est un extrait, alors.
Bien, en fait.
Est-ce que ça avait été seulement produit comme extrait? Oui. C'est-à-dire l'extrait que vous reproduisez, des
sacs. En fait, c'est ce qui est disponible à partir du registre foncier pour ces époques-là. On ne peut pas obtenir l'acte complet. Mais si vous regardez... dans l'acte du 26 juillet 1957, qui est reproduit en page 247, donc dans le volume 1...
Vous serez jusqu'à 10h30.
D'accord, je vais... Alors, simplement, vous mentionnez dans cet acte-là, qui est en fait assez concomitant avec celui qu'on vient de regarder, M. Soutière vend à M. Godreau avec un droit de passage pour avoir accès à la plage. Mm-hmm. C'est pour ça que je vous soumets que quand M. Soutière a voulu donner des accès à la plage, il l'a fait.
On l'a fait.
Et quand il ne voulait pas le faire, il ne l'a pas fait. Vous avez deux actes qui sont, en fait, qui se font de façon très contemporaine l'un par rapport à l'autre. Dans un, on a un accès à la plage, dans l'autre, on n'en a plus. Alors, si vous me permettez, donc mon point essentiel quant à la servitude contractuelle, c'est qu'on a un texte qui m'apparaît clair, que le juge n'avait pas à se lancer dans une interprétation, et qu'on aurait dû tout simplement leur donner la portée à ces clauses-là qu'elles paraissent avoir, donc d'une servitude de passage à pied pour accès au lac. De façon générale, on comprend par ailleurs que la jurisprudence, je dirais plus que majoritaire, a conclu à cet effet-là. Quand on a une servitude de passage pour se rendre à un lac, de façon générale, ça n'inclut pas un droit de plage, sauf évidemment... certaines exceptions. Je pense même, Madame la juge, que vous aviez rendu un jugement que j'ai joint à l'onglet 19 dans le dossier Garneau contre Gauthier, qui avait été confirmé par ailleurs par la Cour d'appel au paragraphe 73 de votre jugement. Vous repreniez ce principe-là. Évidemment, je ne dis pas que c'est un principe.
C'était différent, c'était un droit d'amarrer un bateau là, qui était en cause, mais il me semble que l'usage de la plage était quand même permis. Là. Le droit de se baigner dans le petit lac et de se servir de la grève à cet endroit n'inclut que le droit de la baignade et de l'utilisation de la grève pour les frais de la baignade et de l'amarrage des embarcations, s'il décrète. Est-ce que c'était question de l'installation d'un quai de...
Oui, je comprends bien que ce n'était pas le même débat. Pas,
ça n'allait pas aussi loin que ce que plaidait une des parties. Mais justement, c'est parce qu'il me semble que avoir le droit de se rendre au lac à pied, ça inclut le droit de pouvoir, à un moment donné, on ne peut pas juste marcher, partir de la rue en haut, descendre au lac, puis embarquer dans l'eau avec ses souliers, ses trucs, puis se baigner tout à pied, puis ressortir, puis s'en retourner.
Vous avez tout à fait raison.
Alors, l'histoire de l'utilisation, il me semble que la jurisprudence est confirmée que quand on a un droit d'accès, un droit de passage comme celui-là, ça inclut le droit de poser ses choses, pouvoir se baigner.
Tout à fait, mais c'est d'ailleurs
c'est un droit de plat.
Ce que nous demandions dans notre demande conventionnelle, c'était justement... C'est parce que ce que la jurisprudence est venue dire, c'est essentiellement, quand vous avez un droit de passage pour vous rendre à un lac et non pas un droit de plage, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment vous y rendre, vous baigner, laisser vos items personnels sur la plage pendant votre baignade, mais par la suite, vous n'avez pas de droit de séjour. Vous ne pouvez pas rester là, prendre du soleil, vous ne pouvez pas pique-niquer, vous ne pouvez pas jouer au volleyball ou aux raquettes. C'est ça que la jurisprudence est venue dire. Et ça, on en comprend que ce n'est pas un droit de plage. C'est là que la distinction m'apparaît fondamentale. Tout simplement, vous référez... La jurisprudence dont je traite, puis avec le temps qui me reste, je ne l'aborderai pas, mais en page 19 du mémoire, note de bas de page 126, vous avez la liste des autorités qui, en tout cas, à mon sens, soutiennent l'argument que je viens de vous formuler. En fait, le terme qu'on va retrouver souvent, c'est un droit de baignade minimal. Et qui inclut effectivement le droit de poser ses choses pendant qu'on se baigne, mais on n'a pas le droit de rester après la baignade. C'est ce que la jurisprudence, à mon sens, confirme. Alors, je vais clore avec la question de la prescription. En fait, il y a deux volets, là, l'extinction de la servitude par non-usage et la question du recours. Quant à la servitude par non-usage, je ne remets pas les conclusions factuelles du juge en question. Ce que je remets en question, c'est les conséquences juridiques qu'il en tire. Parce que, au niveau de la preuve, c'est assez limpide, là. Il y a une admission qui est formulée à la pièce des 19, page 464 du mémoire, où essentiellement, le procureur des intimés de l'époque et moi-même convenons que, depuis 1995, la plante empêche le séjour sur le lot 7D40 aux gens qui n'en sont pas membres. Je conviens, sans l'ombre d'un doute, là, que c'était à la plante de démontrer qu'il y avait eu extinction par non-usage. Ça, c'est clair et limpide. Maintenant, avec cette admission-là, à mon sens, il y avait à tout le moins un renversement du fardeau de la preuve qui s'était opéré et qu'il fallait qu'il y ait une démonstration à l'opposé qui soit faite pour... Bon, ça, une révocation d'une admission là, ou autre chose, mais pour démontrer que ce qui avait été convenu n'était pas véridique. La preuve là-dessus, elle est limitée à deux intimés, M. Grand-Maison et Mme Messara, qui par ailleurs n'était même plus au dossier au moment du litige. Mais essentiellement, M. Grand-Maison, on comprend de son témoignage que à chaque fois qu'il s'est présenté sur les lieux, on lui a demandé de quitter et il a obtempéré. Vous trouvez ça en page 572 des transcriptions. Et pour le reste, il s'est rendu comme un invité d'un membre de la plante.
Ce qui n'est pas exact, il est aussi allé en d'autres circonstances. Il a pu avoir accès, autrement dit, il y allait à des heures où il n'y avait pas de gardien.
Oui, je vais y venir. Madame Messara, quant à elle, ce qu'elle dit, c'est j'y suis allée avec une carte prêtée par un des membres de la plante, ou le soir sans jamais séjourner sur place. Ça, vous retrouvez ça, volume 2, pages 471 et 473. Vous avez raison de dire, M. Grandmaison, il a dit, ça m'est déjà arrivé le soir, quand je fais ma course quotidienne, de passer sur les lieux. Mais ça, à la limite, c'est l'exercice d'un droit de passage, mais ce n'est pas l'exercice d'un droit de plage.
Mais il indique qu'il arrête sur la plage.
Pardon?
Il indique qu'à ce moment-là, il arrête sur la plage. Je vais arrêter sur la plage.
Moi, je comprends. Mais...
Donc, le gardien n'est pas là ou avant les affluents, l'affluence de l'été, donc au mois de mars-avril, mais il n'y a pas de gardien les soirs de semaine, les jours de semaine. Il n'y a pas de gardien pendant le printemps et l'automne.
Mais oui, vous avez raison, mais c'est là que toute la question de s'agit-il d'un usage utile à la conservation de la servitude se pose. Moi, ce que j'avais soumis au juge de première instance, c'est que par lecture des articles pertinents du Code, donc, premièrement, on comprend que la servitude est un droit réel. On comprend par ailleurs que l'exercice de fait d'un droit réel se fait à travers la possession, qui est l'article 921 du Code civil, et que on comprend que la possession pour produire ses effets doit être faite suivant certains critères, là, paisible, continu, public, non équivoque. C'est ce que prévoit l'article 922. Alors, si, quand on vous demande de quitter, vous quittez, que vous venez accompagné d'un membre de la plante ou avec une carte qui vous a été prêté, ou vous y allez quand il n'y a personne qui vous voit parce que vous savez que sinon vous allez être expulsé, bien, c'est pas quelque chose de public, c'est pas quelque chose de paisible, puis à mon sens, ça n'emporte aucun effet. C'est, à toute fin pratique, une reconnaissance du droit de la plante. Et d'ailleurs, même si on prend pour acquis que ces gens-là ont fait la démonstration d'un usage utile du lot, c'est pas le cas des autres. Les autres n'ont rien fait. Donc là, la question soulevée par le juge quant à l'indivisibilité devient pertinente. Il y a deux éléments, je vais finir avec ça. D'une part, il va baser son raisonnement sur l'arrêt de la Cour dans Voyer contre Lozial, que vous retrouvez à l'onglet 14 du cahier des sources, qui, selon lui, confirmerait que l'utilisation de la servitude par un des bénéficiaires emporte des effets pour les autres. Maintenant, cet arrêt-là, ce qu'il dit, c'est pas du tout ça. C'est en fait deux propriétaires d'un même lot, donc des copropriétaires individus, dont l'auteur commun a posé un geste interruptif de prescription. Et donc, ils en bénéficient, ce qui est vrai, puis ce qui est un principe qui a toujours été reconnu, mais qui n'a rien à voir avec les bénéficiaires d'une servitude issue de la même source, mais qui sont propriétaires de lots distincts. C'est complètement autre chose. Le deuxième volet du raisonnement du juge, c'est d'appliquer les dispositions des obligations indivisibles à la servitude, parce qu'effectivement, on dit que la servitude est indivisible, en ce sens que quand les lots dominants sont morcelés, elle continue de devoir être offerte à l'ensemble des lots. Maintenant, la servitude, c'est un droit réel, c'est pas une obligation. Alors, qu'est-ce qui, dans la loi, permettait de faire ce lien-là, ce pont-là? À mon avis, rien. Le principe général qu'en matière civile, l'interruption de la prescription ne se transpose pas d'une personne à l'autre devrait demeurer. Et donc, minimalement pour les intimés autres que M. Grandmaison et Mme Messara, je pense que la prescription avait été établie. Quant à la prescription du
recours... Veuillez conclure, s'il vous plaît.
Oui, alors je conclue avec ça. Quant à la prescription du recours, vous aurez compris ce qu'on dit, c'est un recours qui aurait dû être exercé dans les 10 ans. Et à partir du moment où il y avait une manifestation publique de la plante de son droit clair, il aurait dû avoir une action qui avait été prise. Alors,
merci.
Ça conclut. Merci beaucoup.
Réfléchis.
Votre Seigneurie, j'avais préparé un mémoire que vous avez soumis, qui est qui, à mon sens, est une approche technique. Et je vais également préparer un plan de plaidoirie qui est une approche, encore une fois, encore plus technique. Mais j'ai décidé de vous soumettre, étant donné que c'est moi qui ai plaidé en première instance, de vous soumettre une approche du dossier comme je le sens et comme je l'ai plaidé. La démarche commence, à mon sens, avec la volonté exprimée par le notaire Sautière. Et cette volonté, elle est apparente dans tous les textes, dans tous les documents, dans les contrats qu'on retrouve. J'ai vérifié la correspondance du notaire Sautière, naturellement que j'ai pas eu le plaisir de rencontrer. J'ai parlé avec son fils, qui est encore notaire. Et puis, il y a plus.
Mais où est-ce que c'est qu'on retrouve dans la preuve ce que vous dites là, au niveau de la... Vous parlez de...
Non, c'est mon entrée en matière, votre énergie, okay. Ce n'est pas... je parle plus avec mon cœur. Ce n'est pas directeur, c'est plutôt l'approche que
en
je...
En guise d'introduction.
OK.
Pardon?
En guise d'introduction.
Et en guise d'introduction, vous m'arrachez les mots de la bouche. En guise d'introduction, pour essayer d'expliquer, à mon sens, ma compréhension, c'est ce que je vais expliquer à l'honorable le juge Dumas, ma compréhension du notaire Sautière, et qui est, on peut difficilement reprocher au notaire Sautière qui est décédé, rien ne nous prouve que son intention était de, étant donné que le notaire Sautière a fait, à mon sens, la seule chose qu'il pouvait logiquement faire. Pour avoir fait d'autres dossiers du même genre, comme dans la Clovering qui est tout près, à ma connaissance, tous les promoteurs immobiliers qui développent le bord d'un lac fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'ils se gardent un terrain qui devient un fonds servant pour eux autres, de façon à transmettre sur les autres fonds, des fonds qui deviennent dominants, mais qui sont en deuxième, troisième, quatrième et douzième chemin, la même valeur ou une valeur approchante à la valeur des premiers terrains pour que ces terrains-là, qui sont en douzième chemin, puissent jouer d'un droit de passage pour aller à la plage. Et ça, c'est clair, c'est difficile à comprendre, même si on n'a pas c'est facile à comprendre, même si on n'a pas le témoignage du notaire. Ce qui est en preuve, ce qui est là, fonctionné de cette façon-là, et ça ne peut pas être une autre raison que le fait de protéger les valeurs des terrains en deuxième, troisième et quatrième chemin en leur conférant un droit de plage à partir d'un terrain qu'il s'est réservé, qui est devenu le fonds servant vis-à-vis les terrains, disons, en douzième chemin, qui étaient les fonds dominants, et qui bénéficiait d'un droit, d'une servitude, de notre passage vis-à-vis pour atteindre la plage. Maintenant, j'ai étudié et je me rends compte que vous l'avez fait, pratiquement tous les contrats, qui, après, à part quelques exceptions, là, je pense que c'est un ou deux que je vais retracer là, tout début, que je qualifie sans doute d'oubli, mais tous les autres notaires, tous les autres contrats préparés par le notaire, c'est-à-dire ou que le notaire participe, c'est préparé par un autre notaire, on retrouve la servitude qui affecte le fonds servant. Et cette servitude, je l'ai lue et relue, elle est sensiblement bâtie toujours sur le même texte. C'est une servitude que personnellement, je qualifie d'un droit de passage. C'est la question que je me suis posée, pourquoi on aurait pu employer un autre terme, mais il semblait que pour tous les intervenants au dossier, ça fonctionnait. Et je dois dire que ça a fonctionné pendant des années et des années et des années. C'est clair qu'on aurait pu employer d'autres termes, mais c'est le terme « droit de passage ». À ce niveau, les faits ne sont pas contestés. Mon confrère a réitéré sa position il y a quelques instants. Oui, oui, on ne conteste pas que les lots qui sont en deuxième, troisième ou quatrième chemin bénéficient d'une servitude de notre passage vis-à-vis le lot 7D40. Alors, ça n'est pas contesté. Lorsque j'ai pris le relais de l'avocat Baudry de Mégog dans ce dossier, la première question que je me suis posée, c'est, étant donné que tout le monde est d'accord, qu'est-ce qui peut enrocher, qu'est-ce qui peut justifier que mobilise et la Cour supérieure dans un premier temps et la Cour d'appel dans un deuxième temps? C'est au niveau de l'interprétation où, alors que tout le monde s'entend sur les données du problème, au niveau de l'interprétation, ça ne peut pas être plus éloigné et plus contraire. J'ai analysé le cas de figure souvent suivant, étant donné que les mots utilisés sont les mêmes. Je suis propriétaire d'un lot X, mon voisin est le lot Y, qui lui donne sur une autoroute. Je me suis fait donner une servitude de passage en utilisant les mêmes mots qu'on retrouve dans les centaines de contrats qui ont impliqué et le notaire soutière et ensuite la compagnie qui a pris le relais. Exactement les mêmes mots. Alors, des termes succincts et j'ai un droit de passage. À partir du lot X, je peux traverser le lot Y pour atteindre l'autoroute.
Pour atteindre
une autoroute. C'est le cas de figure que c'est mon propos va être court. Alors, j'atteins l'autoroute et lorsque j'atteins l'autoroute, dans le cas de figure que j'ai analysé sur toutes les coutures, le problème ne se pose pas. Parce qu'une fois que j'ai utilisé ma servitude de passage pour atteindre l'autoroute, la première chose que je fais, je quitte l'autoroute. Et je visais d'atteindre l'autoroute pour aller ailleurs pour atteindre un objectif. Et la première chose que je fais quand que j'ai atteint l'autoroute, je quitte. Je ne m'installe pas une chaise de par terre, je ne m'installe pas une serviette, je ne commence pas à me faire griller, je ne fais pas un pique-nique, je quitte. Si on transforme l'autoroute en un lac, et cette proposition-là, elle est cruciale, parce que mon confrère a dit il y a un instant devant vous, il l'a dit devant le juge du mort, il dit, c'est... La clause est écrite en français, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire, on a une servitude de passage, donc c'est pas dur à compter, c'est pas dur à analyser, une servitude de passage, vous passez. Eh bien, on m'a dit, écoutez, Matriché, vous savez lire, c'est une servitude de passage, alors vous passez. La proposition que je fais est la suivante. Si j'ai une servitude de passage qui me permet d'atteindre une autoroute, c'est clair que si je veux atteindre l'autoroute, c'est pour aller ailleurs, c'est pour atteindre une destination. Donc, je n'aurais pas aucun intérêt, aucune envie, aucun besoin de m'installer à demeure, soit pour tenter une tente, ou faire quoi que ce soit. J'atteins l'autoroute pour aller ailleurs. Qu'est-ce qui arrive lorsque l'autoroute devient un lac? Aussitôt que j'atteins le lac, je suis rendu. Et là, la position est complètement contraire au premier cas de figure. Là, je suis rendu. J'ai utilisé ma servitude de passage, qui est rédigée dans le même texte. Je suis parti du lot X, j'ai traversé le lot Y, et je suis rendu à la plage. Mais là, je suis rendu. Et je ne veux strictement aller ailleurs. Je veux utiliser la plage. Je veux me déshabiller, mettre mon linge, peut-être mettre quelques denrées alimentaires, mettre une chaise, Mais je veux utiliser de la plage, aller dans l'eau, revenir, me laisser sécher, recommencer, peut-être tirer un ballon avec un enfant. Je veux utiliser de la plage. Et je pense ne pas commettre d'hérésie en droit lorsque je dis, bon, c'est étant donné que j'ai une servitude de passage qui me conduit à la plage, cette servitude-là ne peut pas vouloir dire autre chose que me conférer un droit de plage. Naturellement, c'est vous qui êtes les experts, si vous dites le contraire, je m'épive avec ça. Mais ce que je suis venu plaider ici devant vous aujourd'hui, c'est rien d'autre. Parce qu'effectivement, la servitude de passage, pourquoi on n'a pas écrit servitude de passage accompagnée à droit de plage? Pourquoi on n'a pas écrit une servitude de plage? Je l'ignore. Le notaire soutien était un juriste. Il a donné le mandat à un autre notaire pour faire. Alors, c'était en juriste. Et puis, bon, ben, tout le monde a conclu, et ça a fonctionné pendant des années et des années, que si vous aviez un droit de passage pour vous rendre à une plage, c'était superfétatoire que de dire, ben, une fois à la plage, ben, vous vous en revenez. Ou, comme maître Gravel a dit, vous pouvez vous déshabiller comme ça, peut-être rentrer dans l'eau habillé, et ensuite vous sortez du reculon, vous remarchez dans vos pas, puis vous en allez. Ça, à mon sens, et dit avec respect pour l'opinion contraire, ça n'a aucun sens. Et si vous interprétez la clause qu'on retrouve dans tous les documents préparés par le notaire soutière, de cette façon-là, à mon sens, on enlève tout sens à cette clause-là. Et les règles d'interprétation sont à l'effet qu'on ne peut jamais interpréter une clause ou une donnée ou un document à l'effet qu'il n'ait plus aucun sens. Donc, c'est pourquoi, selon ce que nous avons plaidé en cours supérieure et ce que nous plaidons ici, aujourd'hui, que malgré le texte, et peut-être que le texte n'est pas le plus heureux, mais il est facile, si on retient le premier critère, de retracer la volonté du notaire soutière. Parce que le notaire soutière ne voulait pas d'autre chose, parce qu'il y avait, pourquoi l'intérêt de dire, ben, écoutez, je vous vends un terrain au 12e chemin, mais vous avez, n'oubliez pas que vous avez un droit de passage, sur le lot 740D et qui vous donne accès à la plage. Bon, et ça, j'ai pas besoin de personne pour m'expliquer, même si je suis un juriste, c'est que si on me donne ça, c'est que je vais pouvoir dire à mes enfants, ben, vous pourrez aller à la plage. Alors, dans un premier temps, lorsqu'on entreprend cette interprétation-là, on respecte la volonté du notaire soutien. On respecte également la volonté de l'acheteur. Parce que je comprends que ce n'est pas dans le dossier de la Cour, mais si vous vérifiez sur Internet toutes les propriétés qui sont à vendre sur le lac Memphremagog, j'allais me promener dans les routes, toutes les pancartes préparées, déposées par les agents d'immeubles, c'est leur publicité. La maison, prenons la maison de M. Grand-Maison, qui m'accompagne ici aujourd'hui. Alors, si M. Grand-Maison met sa maison à vendre, avant que votre décision intervienne, s'il avait mis en vente le mois, bien, ça aurait été la publicité, c'est que nous avons, notre maison vous permet un droit d'accès à la plage. Et c'est généralement, et ça fait des années que ça dure. Alors, si on va à l'encontre de ça, si on avait demandé, si le juge Dumas avait décidé que, contrairement à à toute la tradition qui existait depuis des années, parce qu'on parle des années 40, et rappelez-vous, lorsque monsieur le notaire a passé la main, c'est une institution qui s'appelait Plage Moderne, l'intimé, qui est la cliente de ma consœur aujourd'hui et qui s'appelle l'Association des propriétaires, son premier nom était l'Association de la plage soutière. C'est, moi, je viens de Tabasco, de Victoriaville. Quand je suis arrivé à Sherbrooke en 72, quand on parlait de la plage soutière, on parlait de la plage soutière. Et tout le monde, encore aujourd'hui, parle de la plage soutière. Si vous demandez à quelqu'un où il demeure à la plage soutière. Alors, ces gens-là, si l'approche qui est reconnue par la Cour d'appel est à l'effet contredisant la position du juge du mort, qui, à mon sens, est bien fondée en fait, qui, à mon sens, est bien fondée en droit, je ne vous recite pas les causes de la Cour d'appel. Les causes que je vous ai citées sont dans mon mémoire. Ils sont dans mon recueil d'autorité et je suis sûr et certain que vous les avez lus. Alors, je ne recommence pas. Mais le raisonnement que je fais est le suivant. Si, en fait, M. le juge du mot n'avait pas tellement de jeu, à mon sens, il y avait la décision, il y avait la volonté qui était clairement exprimée par les faits et gestes du notaire soutien. Et en fait, ensuite, il y avait la volonté clairement exprimée. Moi, j'ai fait des assemblées où on s'est retrouvés, une centaine de membres, et toutes les personnes qui sont là, et comme le juge du mois disait, on a calculé qu'il y a au moins 800 membres, 800-900 membres qui sont consultés, mais tous ces gens-là, si demain matin, avec une décision de votre cour, écoutez, le fait que vous ayez un droit d'accès, un droit de passage à la plage, ne vous donne pas le droit d'utiliser la plage, contrairement à ce que M. le juge Dumoisier, contrairement à ce que nous avons plaidé, je pense, et je le dis, je pense que je ne trahis pas la pensée de M. le notaire, contrairement à ce que le notaire visait, vous pouvez passer, on ne sait pas qu'est-ce que ça vous donne de passer. Quand ça s'est passé pour aller prendre une autre route, c'est clair. Mais passer pour aller à la plage, puis si pourquoi vous allez à la plage, je ne sais pas à quoi ça sert. Bien, ces gens-là, avec votre jugement en main, si on prend l'exemple de M. Ramazan, plutôt que de dire à son vendeur, tu m'as vendu sous la fausse représentation, j'ai commis une erreur sur l'objet de la propriété que j'ai acheté, on va détricoter cette transaction-là. Et si ça dégénère entre les 8 et 900, bien là, c'est un tsunami qui frappe la région de Mégane. Pour toutes ces raisons, j'ai analysé, et c'est moi qui l'ai plaidé, c'est moi qui ai plaidé la réouverture d'enquête, et à mon sens, le juge Dumas a été très participatif, a posé un paquet de questions, et j'ai lu son jugement. À mon sens, son jugement ne commet pas, je reprends une phrase que votre cours dit souvent, ne commet pas une erreur déterminante au point pour justifier, je le dis avec respect, l'intervention de votre tribunal. Pour toutes ces raisons, à mon sens, la décision du juge Dumas devrait être maintenue, ce qui conserverait à mon sens, qui empêchait une trahison de la volonté de la notaire soutière et empêcherait peut-être une situation carrément désastreuse dans la région de Mégane. Je tout respectueusement soumis.
Juste sur la question de l'intention du notaire soutière, c'est parce que votre mémoire ne nous éclaire pas beaucoup sur les documents sur lesquels vous vous fondez. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que c'était en guise d'introduction, mais encore, en termes d'écrits, sur quels écrits est-ce que vous fondez votre position quant à la volonté du notaire soutien?
C'est la liste de tous les contrats. Je pense que je les ai toutes lues au complet. C'est la liste de tous les contrats, et, sauf que j'en ai trouvé deux. Et puis, je ne suis même pas sûr, je pense que c'est mon confrère qui les avait trouvés au tout début, parce que ça fait des contrats. Et au tout début, les contrats, soit la première ou la deuxième ou la troisième transaction, là, au tout début des années 40, il y avait deux personnes qui étaient portées demandeurs ou demanderesses, Et on a découvert en faisant toutes les recherches que le premier contrat qui avait créé leur titre ne mentionnait pas la servitude. Mais alors, ils ont été obligés on a produit devant le juge Dumas un désistement. Le juge Dumas a accepté. Mais pour la balance, dans tous les contrats que j'ai lus, c'était toujours la mention et la création d'une servitude de passage qui faisait de l'acheteur le propriétaire d'un lot dominant et à la contrepartie vis-à-vis le lot 7D40 qui devenait lui le front servant selon la volonté de monsieur du notaire soutien qui posait un geste économique simple, logique, et toutes les transactions que j'ai faites du même genre, les promoteurs immobiliers fonctionnent toujours de cette façon. Et mon argument, et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques questions qui s'adressaient dans ce sens-là à mon confrère, à quoi sert, quand même? Parce que personne ne dit qu'on comptait cet autre passage, c'est bien beau. D'autres passages pour aller à l'autoroute, c'est parfait, ça fonctionne. Mais le droit de passage pour aller à la plage, parce que la plage, contrairement à l'autoroute, ou quand j'arrive à l'autoroute, la première chose que je fais, je pars. Mais quand j'arrive à la plage, la première chose que je fais, j'arrête. Et quand quelqu'un m'a déjà dit comment en privé, ben, écoutez, vous ne savez pas lire, c'est écrit passage. Puis un passage, ça. Pas d'interprétation, puis quand il n'y a pas d'interprétation, le juge ne peut pas interpréter. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec cette proposition-là. Parce que si on emploie cette façon de regarder le dossier, parce que je ne peux pas dire, oui, naturellement, j'aurais arrivé avec mon contrat, d'en avoir trouvé quatre ou cinq où le rédacteur aurait dit un droit de passage et de plage. J'aurais aimé ça. Ou remplacer le droit de passage par droit de plage, j'aurais aimé ça, mais ça n'arrive pas. Donc, il y a un travail qu'il faut qu'on fasse pour les juristes. À mon sens, le juge Dumas a fait le bon. Si on a donné un droit de passage qui donne une plage, il ne vous donne pas ailleurs, il ne donne pas une autoroute, il donne une plage. Alors, pour que cette mention-là ait une signification, il faut absolument que la personne... Écoutez, comme vous citez, parce que cette jurisprudence-là est inutile de dire que ça a duré des mois et des mois, j'ai lu. Et ce que vous mentionnez tout à l'heure, je suis conscient des restrictions. Il y a quelqu'un qui a essayé d'étirer pour mettre un quai à demeure, laisser un trailer, une remorque avec un bateau dessus, planter ou installer une tente pour 3 mois... Et habituellement, la Cour supérieure a dit non, vous pouvez utiliser la plage, mais pas l'exproprier. Et ça, je suis d'accord avec ça. Mais le problème ne se pose pas. Oui, M. le juge a dit, là, concernant les équipements, mais les gens que je représente, ils demandent le minimal. Ne demande pas d'avoir le droit d'utiliser des balançoires qui sont là, puis peut-être qu'ils ne servent pas. Du tout. Ils demandent même pas d'installer des tables de pique-nique, mais ils demandent d'installer, de jouer d'une plage comme normalement. Alors, on se déshabille, puis bien souvent, il y a des enfants, alors un peu de lançage de ballon, on court dans la plage, on se laisse sécher, et puis quelques mois, puis ben, la mère, elle a mis un petit quelque chose, et puis après ça, quelques heures plus tard, on quitte. Et ça, j'appelle ça utiliser une plage. Mais sans mettre un bateau, sans installer un quai, sans tout ça, là. Et si je passe minimal, ben, à quoi sert mon autre passage? Absolument rien. Et là, on a des sérieux problèmes.
Merci beaucoup. Avez-vous besoin d'une réplique qui n'est pas répétitive ni qui ne soulève pas des nouvelles questions?
Si vous permettez, en fait, un seul commentaire, vous l'aurez probablement noté, là, mais je pense qu'il est important que je le redise.
Est-ce que c'est
en réponse à quelque
oui,
chose qui a été
fait. Mon confrère disait qu'il y a eu une démonstration de fait d'une utilisation, même passée par les parties, de cette plage au fur et à mesure que M. Soutière développait son projet immobilier. La seule chose que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de preuve à cet égard-là. Alors, quel a été le comportement des parties au fil du temps jusqu'à la vente du lot à la plante? C'est pas en fait. Alors, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci.
Okay. Alors, nous allons suspendre pour la pause matinale. Nous allons en discuter entre nous et décider quoi faire. Donc, nous serons de retour vers 11h20. Merci beaucoup.